pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes fêtent à saccager les pions. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Gaffe les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Alors ce soir, autour de la table, il y a du monde. Alors il faut bien spécifier qu'ils viennent d'arriver, les gens autour de la table. Arthur et Arthur, par exemple.
Salut.
Salut.
Il y a Alex.
Salut.
On est avec CM aussi.
Bonsoir.
Bonsoir, CM. Et Serge au bocal.
Salut tout le monde.
Et bien évidemment, Sylvia, qui vous salue. On va commencer...
Ça fait bizarre de commencer par travailler.
Ça fait plaisir de commencer par travailler. On va commencer par une bonne nouvelle. C'est Serge qui va s'y coller. Ça sera sur des DML, donc les demandes de remise en liberté provisoire.
Bah, on ne peut pas encore trop savoir si c'est réellement une bonne nouvelle. Mais on va voir comment, si c'est vraiment une bonne nouvelle ou pas. On va voir comment ça va s'appliquer actuellement. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en février dernier, on avait parlé d'une décision de la Cour européenne de justice qui condamnait la France parce qu'en fait, il y avait pas de voie de recours. En fait, ils en avaient marre. La Cour européenne des droits de l'homme, ils en avaient marre qu'il y ait des prisonniers qui aillent, qui fassent plein de procédures judiciaires et que ça prenne 10 ans quand ils dénonçaient leurs conditions. Inhumaine. Voilà, donc ça c'est le terme juridique, mais c'est là où c'est important parce que c'est là où ça va jouer. Il y a pas, enfin, pour nous, le simplement l'enfermement, c'est quelque chose d'inhumain, mais pour la Cour européenne et eux, c'est un peu plus différent et on va pouvoir continuer à en parler là. Mais donc Il y avait donc la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit, franchement, là, on n'en peut plus. C'était la 20e affaire qu'ils avaient. Je crois que là, c'était une affaire où il y avait 34 personnes. Enfin, ils avaient réuni les dossiers de 34 personnes. Et ils ont dit, maintenant, il faut absolument que vous ayez un processus juridique, enfin, donc un parcours, enfin, voilà, ou porter plainte pour pouvoir dire, enfin, pour pouvoir dénoncer les conditions et que ces conditions s'arrangent. Ils disent, il y en a marre que ça arrive jusqu'à nous. Maintenant, il faut que la France se débrouille pour que ça arrive avant. Il ne faut plus que ça revienne jusqu'à nous. Donc ça, c'était le truc qui s'est passé en février dernier. On en avait parlé, on avait dit, bon, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Depuis, en fait, les choses, elles ont un peu avancé parce qu'il y a des gens qui ont attaqué. Et franchement, c'est rare qu'on dise que le taf qu'ils fassent, c'est bien. Mais en tout cas, on sait que c'est l'aspect qu'ils ont pris sur l'aspect juridique et tout ça. Et on sait qu'il y a différents temps et la lutte juridique, elle peut aussi advenir. Là, c'est quand même un taf qui a été vraiment porté par l'OIP et l'association de la 3D. Ça fait 10 ans qu'ils se battent pour ce truc et ça, ça fait partie de... des rares choses, on va le dire comme ça, où on est plutôt content de ce qu'ils font. Voilà. Et donc là, c'est passé en fait devant deux instances, la Cour de cassation d'un côté et la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel de l'autre, pardon. Et donc.
Non, pardon pas.
Merci de ton soutien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, cette demande de la Cour européenne des droits de l'homme, en fait, elle est actuellement en application. C'est-à-dire qu'en fait, en février dernier, désolé, on n'est pas des fins juristes, mais en fait, c'était déjà le moment où, en fait, il pouvait y avoir des demandes de mise en liberté qui pouvaient être déposées. C'est ce qu'ont fait certains avocats. Et c'est pour ça que ça s'est retrouvé, cour de cassation, tout ça, tout le bordel. Donc, il y a une décision qui est un peu hallucinante, mais donc on va voir, parce que ça risque d'être une sacrée merde, où le Conseil constitutionnel a dit « Il faut absolument que le gouvernement, ils ont 6 mois à partir d'aujourd'hui pour faire une nouvelle loi pour qu'il n'y ait plus de personnes en détention provisoire qui soient dans des conditions inhumaines. » Donc ça... ça va être clairement très dur. Après, on va y revenir après, mais il faut voir par quoi ce qu'ils appellent, eux, conditions inhumaines. Parce que, voilà. Mais en tout cas, il y a...
Se faire taper par 50 surveillants et d'avoir aucune preuve sauf ses bleus peut être une condition indigne.
Bon, ça, c'est même d'autres choses. C'est violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité. Voilà. Mais donc, il va y avoir cette nouvelle loi et donc il va falloir faire hyper gaffe. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous mettre et tout ça. Mais la décision du Conseil constitutionnel, en tout cas, c'est comme ça que se concluait un article dans la presse bourgeoise qu'en parlait. Il disait, là, c'est pour les détentions provisoires, mais il y a un moment, ça va devoir s'étendre à tout le monde. Voilà. Donc... Ça, c'est ce qui est en cours du côté parlementaire et tout ça. Et voilà. Ce qui n'est pas ce qui nous importe le plus, même si de toute façon, on va suivre et on continuera à vous en parler. Là, au jour d'aujourd'hui, en fait, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, donc le fait qu'on n'ait pas le droit d'enfermer des gens dans des conditions inhumaines en détention provisoire, elle est en cours. Et par exemple, il y a un prisonnier à Nouméa qui s'est fait libérer en début de semaine là-dessus. Et donc, juste là... c'est le moment où il faut que... Alors, on va y revenir, mais donc, ce qu'il va falloir, enfin là, pour vous, à l'intérieur, si vous êtes en détention provisoire, ça s'adresse qu'aux personnes en détention provisoire, mais voilà, c'est quand même un tiers de la... C'est un tiers des personnes qui sont enfermées, voilà. Il faut absolument que vous preniez contact avec votre avocat ou que vous fassiez une DML tout seul. Mais vu comme ce qu'il va falloir prouver, ça va être plus simple si vous passez par votre avocat en demandant une DML pour conditions indignes et inhumaines.
Par exemple, à Fresnes, vous vivez avec des rats constamment. C'est l'insalubrité. La prison a été condamnée à plusieurs reprises. Et là, effectivement, vous vivez dans des conditions inhumaines, insalubres et avec une surpopulation carcérale où vous avez le risque, en plus de surcroît, d'être covidé, si je peux m'exprimer comme ça, comme il se passe dans tout le Détroit et tout le D2 actuellement. Donc là, vous pouvez contacter votre avocat et déposer une demande de remise en liberté pour des conditions inhumaines. Voilà un exemple.
Et donc là, par ça, il va falloir que vous prouviez parce que c'est comme d'hab, c'est pas eux, enfin, c'est pour nous, enfin, tu vois, c'est le truc un peu fou quand même, c'est que les prisonniers vont être obligés de prouver qu'ils sont dans des conditions inhumaines, alors que juste d'être enfermé, déjà, c'est le cas. Et alors, mais en fait, le truc qui est ouf et qui est complètement gueudin, c'est que les conditions inhumaines pour la Cour européenne des droits de l'homme, c'est des trucs super restreints, comme par exemple avoir 3,4 mètres carrés. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es à deux par cellule, c'est pas considéré comme étant inhumain. Voilà. Mais par contre, si t'es à moins, si t'es à 3 ou plus, si tu dors sur un
Nanterre,
matelas,
faites tous des DML.
Ouais, mais en fait, il y a plein, il y a différents. En fait, il y a pas une liste qui existe, mais il y a déjà un peu des trucs et tout ça. Donc, par exemple, s'il y a pas accès à l'air, voilà, si vous avez pas accès à l'air, par exemple, on pense au Baumette chez les femmes à Marseille, où il y a ces petits, je pense qu'on peut appeler ça des œilletons.
Chez les hommes.
Pareil, ouais, sur ces tôles qu'ils ont rénovées il y a pas longtemps. Enfin voilà, et si vous avez pas accès à l'air humain,
au soleil,
n'importe quoi. Voilà, pareil, exactement le soleil. Si vous avez pas accès à la lumière directe. Ça peut faire partie. Si il y a pas de cache pour les toilettes,
les femmes à Fleury,
dans quasiment toutes les maisons d'arrêt.
Non, ouais. C'est celle que je connais. Hein. Celle-là, je l'ai vécue. Ouais. Donc t'as vu.
Grave. Non, mais et donc en fait voilà, c'est tous ces trucs que vous allez devoir écrire. Et le truc pas mal, c'est de réussir à s'appuyer par exemple sur un rapport du contrôleur général des lieux de privation ou des anciennes condamnations de la prison qu'il y a eu, genre de truc. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait d'un côté le témoignage du prisonnier qui dit voilà ce qui se passe, voilà comment moi je vis, et que ça soit, alors c'est ce qu'ils appellent en termes juridiques, corroboré. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui soit dit par la justice ou par des autorités, enfin voilà, comme le contrôleur et tout, qui va dire ah bah oui, c'est à peu près pareil que ce que raconte le prisonnier à l'intérieur. Tu vois, ils vont pas accepter de croire seulement le prisonnier. Enfin voilà, on sait comment ça fonctionne, mais donc il faudra rajouter en plus quand vous ferez cette demande, dire bah voilà, allez voir dans telle décision de justice, ce genre de truc. Voilà, sur le site de l'OIP, il y a une page où il y a toutes les décisions. Alors, il n'y a pas toutes, parce que c'est juste celles qu'ils ont gagnées, mais quand même, il y en a quand même un certain nombre et tout. Voilà. Et en vrai, franchement, en fait, là, moi, j'en parlais avec les avocats qui se sont battus pour ce genre de truc. Et en fait, ils sont super vénères que leur collègue avocat ne se soit pas saisi de ce truc-là depuis un petit moment. Et c'est réellement un truc de ouf. Voilà.
Ouais, donc, comme tu dis, c'est vraiment aux gens à l'intérieur là, d'aller pousser les avocats
grave.
Pour faire le boulot, quoi, pour
c'est
qu'il
ça.
Y ait vraiment beaucoup de DML qui soient déposés. Parce que là, comme tu dis, il y a de la place. Potentiellement, on ne sait pas ce que ça sera
le
dans
truc,
6
c'est
mois.
Que la DML, pour les avocats, c'est de la petite paperasse. Ils préfèrent s'occuper des dossiers où ils vont plaider pour prendre les pépettes. Voilà, donc là, il faut qu'ils fassent abstraction un petit peu aux pépettes parce que c'est leur travail aussi, les demandes de remise en liberté. Donc,
grave.
Poussez-les là et dites-leur que vous le payez et que voilà, la paperasse, c'est aussi son taf. Voilà.
À fond. Et donc, voilà. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Bon, si en plus... tout vient en même temps. on peut espérer qu'il y ait des délais, tout ça qui tombent. Mais voilà, mais en vrai, là, il y a vraiment une fenêtre. Et surtout, en fait, le truc, c'est que là, il y a une fenêtre, le temps qu'ils nous chient leur loi qui risque d'être pourrie. C'est-à-dire qu'on en a.
On a 6 mois.
C'était les poteaux du Sud qui en parlaient. Ils ont déjà. La chancellerie, donc le ministère, tout ça, voilà. Ils ont déjà fait une sorte de circulaire, enfin, donc un texte de loi qui. Commençait déjà à restreindre au maximum tous les trucs en disant si on promet qu'on va faire des travaux, il n'y a pas besoin de respecter cette décision. Si on promet de transférer la personne, il n'y a pas besoin de respecter cette décision. Donc eux, ils ont déjà produit ces trucs et les gens, ils ont dit non, ça ne marche pas. Mais donc en fait, on sait très bien que la loi, elle sera dégueulasse. Et donc là, en fait, il y a 6 mois pour, en utilisant ce qui se passe et tout ça, ils vont trouver les outils juridiques pour contrer.
Qui va sortir ou pas, ça c'est sûr.
C'est ça. Mais en tout cas, il y a quand même une opportunité là, comme rarement il y en a eu, et il faut absolument que les gens s'en s'en saisissent. Nous, on va essayer de faire une petite fiche là, qu'on s'est dit qu'on foutrait sur le site, tout ça. Enfin, voilà, quoi, un truc un peu pré-rempli comme il peut exister dans le guide des proches ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment un truc hyper, hyper important. Et je ne suis pas sûr que les personnes qui ont fondé cette émission ils auraient utilisé le droit comme moyen de lutte. Mais en tout cas, ça peut foutre un sacré bordel.
Surtout si vous demandez tous des DML en même temps pendant ces 6 mois, ça va créer forcément des vices de procédure, puisqu'on sait, tout le monde sait que c'est 10 jours ouvrables, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et que si au bout de 10 jours, vous n'avez pas de réponse, c'est considéré comme un vice de procédure et donc vous sortez. Et là, effectivement, ça peut faire un sacré merdier. Et par contre, ça, les créateurs de l'émission il y a 18 ans, faire un sacré merdier dans l'administration pénitentiaire, ça, ils aimaient bien. Voilà. Donc, ça peut être cool.
Donc ouais, non, franchement, c'est vraiment un truc hyper important. Passez-vous le mot dans les cours de promenade et tout ça. Il y a quelqu'un qui s'est fait libérer à Nouméa lundi dernier. Je veux dire, en fait, c'est vraiment un truc. Enfin, dans les dom-toms, on nous entend pas, mais c'est la catastrophe. Voilà. Mais je veux dire, enfin, il pourrait libérer les. Enfin, pourrait y avoir moitié moins de prisonniers.
Juste les douches.
Voilà quoi. Bah, juste les douches. Enfin voilà, il y a les douches, mais les rats freinent. Enfin, en fait, tous les trucs.
Ça, il y a même plus. Les rats freinent, il n'y a même pas à prouver. Ils ont été condamnés.
Ouais.
Maintes et maintes fois, ils ont été aussi condamnés pour les grilles.
Si en fait, il faut l'écrire soi-même, parce qu'il faut. Il faut dire ça. C'est moi que ça touche.
Voilà.
C'est-à-dire, donc, il faut absolument écrire une lettre en disant « Moi, je suis en train de vivre ça. » voilà, parce qu'en fait, sinon, il faut que...
D'un côté, ils s'en foutent. Ils vont pas venir vous chercher, ça, c'est sûr.
C'est
à part chez vous.
C'est pour ça qu'il faut les deux trucs. Il faut le côté « Moi, je dis ce que je vis. » Et de l'autre côté, un rapport ou une décision qu'il y a eu il y a quelques années ou autre qui va... valider ce que vous dites. Voilà, c'est moi, ça me fout la rage qu'il y ait besoin de passer par là, mais c'est en tout cas c'est le moyen le meilleur.
En tout cas, on essaye de pouvoir trouver un avocat qui vienne à l'émission pour pouvoir en parler plus approfond.
Tu veux dire que je l'ai mal expliqué, c'est ça?
Ouais, tu fais chier, putain. Non, mais au moins, ce serait bien si vous avez des questions, tu vois, si les gens, ils ont des questions, qui peuvent, ce serait bien qu'on fasse un truc comme ça.
Bah, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les envoyer sur le site et tout. Le pote qui a plaidé le truc, on doit se capter depuis un petit moment, donc on le fera. Voilà, et ça sera pour bientôt. Voilà. Mais s'il y a des questions et tout, ça, faut pas hésiter. Et franchement, hésitez pas à aller harceler vos avocats et aussi l'association qui s'appelle la 3D.
Qui est l'association qui a été créée par l'Observatoire international des prisons, enfin l'ancienne dirigeante.
Par les avocats. Par des avocats qui sont proches,
Benoît David, Étienne Noël. Qu'il ne faut pas prendre parce qu'il n'est pas terrible.
pas Étienne Noël. mais voilà. Il peut prendre beaucoup d'argent.
Oui, il peut prendre beaucoup d'argent, c'est surtout ça en fait. Bon, on va mettre un petit peu de musique, sinon on va déraper.
Tu me laisses un petit peu de temps parce
non.
que. Si.
Bon,
parce que je suis en train de
Arthur, il va chanter une chanson là.
Donc voilà. Est-ce qu'on fait un petit point? Non, on fera le point tout à l'heure.
Dis-nous tout.
Non, je me demandais si on faisait le petit point Covid maintenant ou pas. Je sais pas.
Ce que je voulais dire par rapport à ce que tu avais dit, c'est si vous avez des questions. N'hésitez pas, que ce soit par téléphone, par lettre et tout. Enfin, je ne sais pas si c'est pour vos proches à l'intérieur, si vous êtes à l'intérieur, vous en entendez parler. Faites-nous remonter au maximum les questions et nous, on va essayer quand il y a l'avocat qui va venir et même on vous répondra. Et on est aussi là pour ça, pour aider à foutre ce bordel. Si on peut aider à multiplier DML, vous envoyer les documents qu'il faut. Voilà, n'hésitez pas à nous.
Et pour ça, on va en profiter pour redonner le numéro de téléphone de
l'envolée. On ne l'avait pas donné au début.
C'est le 07 52 40 22 48.
Et pour nous écrire, c'est. L'envolée-FPP, 1 rue de la Solidarité, 75019 à Paris. Donc voilà, et puis après, il y a tous les réseaux sociaux et tout. On passe à un petit coup de musique. C'est parti.
Allô ?
Un doigt dans le cul si tu crois que tu nous épates. Moi et mes potes, y'a personne qui nous éclate. On arrive calibré dans ta cité. Ouais. Y'a des fusils d'assaut à grande capacité. La véracité, la rapacité, parrain de la cité. Tout attisé, ça n'a jamais marché. Petit fils de pute, on doit faire une mise au point. Ouais. Je suis un bonhomme, moi je suis pas comme ces gogoles. Ils disent que c'est des fous, c'était des victimes à l'école. On a grandi dans la rue, t'inquiète, on sait ce que c'est les codes. Y'en a plusieurs, des méthodes. Moi j'dis pas que j'ai la meilleure, mais quand je nique tes mères, après tu t'étonnes. Fraté, j'ai frappé, traqué, braqué fort. Tellement pleuré pour la levée du corps. J'ai fait 8 ans de prison, toujours gardé le mort. Du 9K, on me respecte jusqu'au quartier nord. Hamster, rotaire, renverse mes potes au port. Aucun tort, très solide dans les contacts. J'suis un tigre, viens pas trop traîner dans mes pattes. Et puis tu sais, nous on aime pas trop les corps à corps. Le dossier en tête de pile, mon nom sur vos rapports. Sapé en blanc comme ma voiture, parfait le raccord. C'est 50K le feed, faut nous payer d'abord. Un calibre dans la bouche, j'sens qu'on va tomber d'accord. Oh gros, t'es malade, le masque faut tu le portes. Tu mets la coque sur la cuillère, toute la merde qui s'évapore. Pour t'éclater ta mère, pourquoi faire tant d'efforts? Pour tirer tu de moi, rendez-vous à n'importe quelle porte. J'arrive direct quand il fils de ouais. Pris pour que tes pronostics puissent être vrais. Ils ont le train de vie et de grandes conquêtes. Ces menteurs ne sont que des vulgaires pickpockets. Je le sais qu'ils parlent, qu'ils caricaturent sur les traits de mon âme, ils laissent des ratures. Il faudrait que je parle, c'est perdu dans la nature. Ou que je fasse un accident de ma voiture. Je connais ton fournisseur, on va pas parler 10 heures. Petit, tu crois que je parle de toi, mais t'es même pas dans mon viseur. La vérité est crue, vous ne méritez plus une once de respect ou une place dans mes pensées. C'est vrai que je suis têtu, c'est vrai que je suis rancunier. Je suis pas surhumain, tu casses tes couilles, je vais t'en tuer. Et tout ce qui reste, c'est du mauvais. Si tu savais, toutes les embrouilles, ça n'est que pour délover. Ils me dégoûtent, mais quelque part, je sais qu'on me redoute. Quand ils m'écoutent, ils ont le seum, j'ai aucun doute. J'ai pris ma route, et tout ça, j'en ai rien à foutre. Perdu le bout, crois-moi, j'ai la plus fraîche de toutes.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19e. Et pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10 ou au 07 52 40 22 48. On va passer au sujet qui fâche, en tout cas qui me fâche. On va passer à une prison où il se passe beaucoup de choses et arrivé un moment quand on fait beaucoup de misère aux gens et qu'on pense être au-dessus des lois et tout ça, bah, forcément ça nous tombe dessus. Et bah, paume, ça va vous tomber dessus. Voilà, on arrive. On est bien là et on arrive. Donc on va commencer par vous lire la lettre d'un jeune homme qui s'appelle Abdel Razak. Tout à l'heure, je vous ai présenté Siem et sa sœur. Et donc, on va commencer par cette lettre et après, on va discuter un petit peu. Et donc, à toi, Mauve, qui vient d'arriver aussi. Là,
bonjour, je vous écris car j'ai des problèmes dans cette prison. Cela fait 8 mois que je suis ici à Bapaume, que je demande du travail, des formations pour me réinsérer. J'ai toujours des réponses négatives et pour aucune raison. Alors que moi, j'ai envie de travailler et de faire quelque chose de bien en prison. Ils me changent de cellule à chaque fois pour rien. Ils me font plusieurs fois la fouille alors que je n'ai rien à me reprocher et ils ne trouvent rien. Les surveillants continuent de persister et à force, je prends cela pour de l'acharnement. Le dernier incident en date, j'étais en promenade. Je faisais mon sport tranquillement, dans mon coin, j'embête personne. Lorsque je remonte en cellule, je retrouve une serviette que j'avais mise à la fenêtre pour protéger du froid. Je la retrouve donc, mais toute déchirée. Je suis alors partie demander au surveillant qui a fait ça. Il m'a répondu que c'était le capitaine Azaoui qui se serait défoulé. Je suis donc retournée en cellule, ils m'ont enfermée, toujours sans raison, à cause d'une serviette. C'est ensuite qu'ils sont arrivés en force à 10, alors qu'aucune raison ne leur donnait le droit à user la force. Ils m'ont menotté et étranglé pour rien, car j'étais inoffensif. Suite à cela, et donc toujours sans raison, ils décident de me ramener à la C, le bâtiment fermé. Suite à ces incidents, l'énervement qui monte de toutes parts, je me suis lamé tout le corps, de la tête aux pieds. Je l'ai fait, car je ne savais pas quoi faire face à toutes ces... ces violences, provocations et leurs abus de pouvoir. Le capitaine Azaoui est revenu avec ses collègues. Ma cellule était pleine de sang. Je demande alors le médical. Mais il a donné l'ordre de me plier, de me menotter et de m'étrangler sans pouvoir voir un médecin. Ensuite, je suis arrivée au QD. Ils m'ont mis à genoux et m'ont laissé nue. Toujours sans médecin. alors que j'en faisais l'appel. Ils sont violents. Je ne sais plus quoi faire. Le premier incident, c'était à la A, avec le chef. J'étais malade. L'autre capitaine m'a fermé la porte sans raison. Je me suis lamée car il me pousse à bout, me provoque, et de ça, leur sanction a été de 20 jours au QD. Tu passes 3 ans et demi à... J'ai jamais eu de problème, ni avec les surveillants, ni avec les détenus. Dans cette prison, ils provoquent, ils me poussent à bout, et je m'auto-détruis à cause d'eux. Une fois, j'ai eu parloir avec ma sœur, qui habite à Paris, à 250 km d'ici. Ma sœur attendait en salle d'attente. À l'heure des rentrées de parloir, ma sœur avance donc voulant entrer, et là, ils lui refusent son accès au parloir et ils disent qu'elle est venue en retard alors qu'elle était en salle d'attente avec les autres familles. Et ils n'ont pas vu. Ensuite, ma sœur est partie les voir en demandant quelle était la raison. Ils lui ont dit « retard ». Ma sœur leur a alors dit de regarder les caméras car il y avait erreur, elle était bien là, et de là, ils ont décidé de nous suspendre le parloir 3 mois, sans vérifier les caméras, sans investigation, sans motif. Moi, je ne parle pas bien le français. Ils me provoquent, me poussent à bout. Je n'ai jamais demandé à venir à la BAPOM, mais j'avais demandé Léon ou Longuenesse. Non.
Oui, c'est ça.
Oui, pardon. C'est le lieutenant de Sekedun qui m'a mis le troisième choix, Bapaume de lui-même. S'il vous plaît, je demande un transfert en urgence, car j'estime que ma vie est en danger ici, dans l'attente d'une réponse de votre part, cordialement.
Alors, on va commencer par le début. Au départ, Abdelrazak est à Sekedun. De Sekedun, il est transféré à Bapaume, donc c'est ce qu'il explique, donc son troisième choix, donc loin de son seul parloir, puisque aujourd'hui, Siem, c'est la seule personne qui peut aller le voir, puisque ses parents sont en Algérie. Et en fait, quand toi, t'appelles pour demander un parloir, en fait, comme ce qui est normal, et comme les parloirs, en fait, il suffit que quand tu changes de prison, ton parloir, il suit. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle. Là, en l'occurrence, pensant que Abdelrazak était seul, le parloir aurait été perdu. Donc, il a fallu que Siem refasse les demandes. Tu me dis, hein, si je me trompe, tu m'interromps. Il a fallu que Siem refasse sa demande de parloir. Donc, recommence du début, refasse les photomatons. C'est le cas de le dire. Et le parloir, il a fallu qu'elle justifie qu'elle était sa sœur. Voilà, alors qu'elle avait déjà eu obtention de ce parloir, et c'est eux qui ont perdu soi-disant les papiers. Et par la suite, il y a eu cet incident qui a eu lieu lors de la visite. Donc tu as attendu 20 minutes dehors. Tu es parti parce qu'en fait, on ne peut pas rentrer avec les portables. Donc
J'ai déposé mon téléphone dans mon véhicule. Et quand je suis revenue, j'attendais donc devant la baie vitrée de l'accueil. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu il y avait plusieurs personnes à l'accueil qui prenaient normalement les familles qui arrivaient pour les parloirs. Et elles sont restées là pendant facilement 10 minutes. Hein. Elles m'ont bien vu, hein, mais elles ont mis 10 minutes à me voir.
Ouais.
Donc en fait, elles sont arrivées juste après... il était 10 heures pile. Et c'est là que l'agent d'accueil vient me voir. L'agent pénitencier, et il me dit oui, c'est pourquoi. Je lui dis, j'ai un parloir. Elle me dit oui, mais c'est terminé.
C'est une visite de routine, poteau.
Oui.
C'est pourquoi.
Je lui dis, je viens voir mon frère. J'ai fait une demande de parloir. Voilà, je viens voir mon frère, j'ai un rendez-vous. Ah oui, mais c'est trop tard. Et elle me dit, c'est pour qui? Et je lui dis, c'est pour monsieur Jeffour Abderrazak. Après, elle me dit, oui, mais le parloir, il est terminé. Parloir terminé, on vient de le rendre. Je lui dis, comment ça? Je lui dis, ça fait 10 minutes que je suis là. Je vous fais des signes depuis tout à l'heure. Je n'ai pas osé taper sur la vitre pour ne pas offenser qui que ce soit. Je dis non, alors repassez les caméras et vous verrez que j'étais là depuis au moins 10 minutes. Mm. Je dis, vous pouvez demander à l'agent d'accueil. Il y a un agent d'accueil qui se trouve dans l'espace famille. Je dis, vous pouvez lui demander, j'étais là il y a 20 minutes avant.
Il faut bien parler dans le micro.
D'accord. Et du coup, en fait, elle ne cherche pas à comprendre. Elle me dit non, c'est terminé. Je dis, mais il y a des familles qui peuvent vous prouver que j'étais là il y a déjà un quart d'heure, 20 minutes. Elle me dit, non, c'est trop tard. Alors je lui dis, mais s'il vous plaît, je viens de loin. Je commence à la limite à la supplier, que je n'ai pas vu mon frère depuis, je n'ai pas pu le serrer dans mes bras depuis 15 ans. C'est ce que j'ai expliqué dans la lettre, parce qu'il fallait. Il a fallu que j'explique en plus pourquoi il y a eu une altercation entre moi et les agents d'accueil. Donc je leur dis que depuis 15 ans, je n'ai pas tenu mon frère dans mes bras et que la dernière fois, je l'ai vu par le biais d'une baie vitrée. Je dis, là, c'est la première fois que je vais le prendre dans mes bras et il en a besoin parce que je sais ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Je sais ce que vous lui faites. Vous lui faites subir des pressions. En fait, je ne voulais pas trop parler parce que je ne voulais pas envenimer la situation. Ouais, parce que je sais que c'était lui qui allait en pâtir une fois que
je serais partie.
Ouais. Ouais. Donc, du coup, bah, je suis partie et voilà.
Il faut savoir que... Il s'auto-mutile.
Oui, voilà, parce que c'est le seul moyen.
C'est le seul moyen.
Se faire écouter,
c'est ça.
Parce qu'il s'exprime déjà très mal en français. Mm-hmm. Il a fait beaucoup de demandes, des demandes de formation, des demandes de travail. Alors sachez que quand il est rentré à Bapaume, il a été laissé pendant un bon mois. Alors je peux pas vous dire exactement combien, mais des semaines dans la cellule des arrivants, alors que des gens arrivaient après lui. Était transféré immédiatement dans d'autres cellules.
Déjà, ça c'est de la torture.
Voilà.
Donc, on a bien connu le quartier des arrivants qui est comme le quartier des mitards. Il n'y a pas de promenade en vrai. Les promenades, c'est
exactement.
Avec un toit.
C'est ça. Il n'avait pas accès aux sorties comme les autres, en fait. Donc, déjà, dans un premier temps, c'était ça. Ensuite, c'était des provocations. C'est quelqu'un qui est très. Qui a la main sur le cœur, même, bon, son passé, c'est son passé. Ce qu'il
Exactement.
A fait, c'est sa connerie, il l'assume.
Exactement.
Il purge sa peine, mais lui, il a juste demandé à purger sa peine tranquillement. Mm-hmm. Il ne l'a pas demandé Bapaume, justement parce qu'il ne sait pas bien s'exprimer en français. L'ancien agent pénitentiaire qui lui a rempli les documents, lui a mis Bapaume d'office. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Bapaume. J'ai fait une demande de rapprochement familial, je n'ai pas eu de réponse, mm-hmm. sachant que j'habite à Paris. Lui, il a demandé l'an, en premier lieu. Parce qu'il pensait qu'il allait finir sa peine. Et puis, il ne lui restait pas longtemps. Il lui restait peut-être un an par rapport à ce qu'il a déjà purgé, ouais, je veux dire. Donc, il a déjà été condamné. Donc moi, je ne comprends pas déjà pourquoi il a été envoyé dans cette prison-là. Parce que apparemment, il me disait que c'est des gens qui ont 20 ans, 30 ans. Ils sont là encore. Ils vont mourir là, quoi. Moi, c'est la fin de ma peine. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis là. Donc, je me demande si je n'ai pas été punie volontairement.
C'est fort probable.
Donc, voilà. Alors, je pense que, dans un premier temps, c'est un peu injuste parce qu'ils ont pensé peut-être qu'il était seul.
Exact.
Mais sauf que maintenant, il n'est plus seul.
Non, pas du tout. Il est plus seul, exactement.
Il n'est plus seul. Moi, je suis là. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, j'ai passé vraiment un sale après-midi parce que j'ai mes frères et sœurs qui se trouvent en Algérie. Parce que sachez qu'on a le même père, on n'a pas la même mère. Mais quand ils m'appellent pour me demander de ses nouvelles, je ne sais même plus quoi dire.
Ouais, je sais.
Est-ce que je ne peux pas leur dire qui s'est lacéré ? Je ne peux pas. Non, mais ils vont être malades. Ils vont être malades. J'ai promis à mon père de faire attention à lui, de prendre soin de lui. Je viens juste de renouer contact avec ma famille. Je ne savais même pas qu'il était en prison, qu'il était en détention. Donc, quand il s'est fait juger. Je venais de savoir qu'il était en prison.
Ouais, donc tu t'es pas.
Donc c'était quelques mois. C'est pour ça que mon permis de visite était très. Il était très récent en fait.
Donc, et en plus, on en parlait un petit peu en antenne, c'est que quand il a été jugé.
Je sais pas dans quelles conditions il a été jugé.
Il faut savoir que quand tu parles pas français comme ça, il faut un interprète quoi qu'il arrive.
Ah bah, apparemment, il en a eu un, mais qui n'était pas parce que. Bon, il y a plusieurs dialectes en arabe.
Oui, bien sûr.
Il y a l'arabe littéraire, et je pense qu'il y a eu des couacs au niveau. Il m'a bien fait comprendre que moi, je disais une telle phrase à l'interprète, il interprétait autre chose. Mm-hmm. Je me suis dit, moi, je ne connais pas son dossier.
Ouais.
Je ne connais pas son dossier. J'ai quelques notions de droit, mais je ne connais pas son dossier. Je peux pas dire, voilà, il s'est passé ci ou ça,
ça se trouve
dans quelles conditions. Ça se trouve aujourd'hui, je ne sais pas.
Ça se trouve aujourd'hui, il a été mal jugé, il a été mal compris, et ça se trouve, il peut même être en prison arbitrairement ou autre. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand il s'est...
Quand c'est la deuxième fois qu'il s'automutile.
Voilà, quand il s'automutile. Alors, il faut savoir que la prison, chacun le vit à sa façon et chacun s'exprime à sa manière en détention. Mmh. Voilà, il y en a qui cassent tout, il y en a qui sont patients, il y en a qui tapent, il y en a qui se font mal, il y en a qui font mal aux surveillants, il y en a, voilà. Lui, et en fait, aujourd'hui, il est au mitard. Il est considéré être dangereux.
Oui.
Alors qu'il est dangereux que pour lui-même, en vrai, puisque ouais, c'est
il
se fait mal
il
à lui.
Il est dangereux que pour lui-même. Et voilà. Ça les gêne. Ça les gêne.
C'est ça.
Voilà. C'est ce qu'il m'a expliqué. Ça les gêne. Donc, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour se faire écouter.
Exactement. Et en fait, il n'a rien à faire au mitard, puisque son état de santé, déjà d'une part, n'est pas compatible, déjà d'une. Et de deux, quand il s'est...
Je précise, il n'est pas suicidaire.
Non, il n'est pas suicidaire, mais il fait des crises d'angoisse.
Oui.
Donc, dès l'instant que tu fais une crise d'angoisse, quelle qu'elle soit, ton état de santé n'est pas compatible avec le mitard. Parce que tu peux faire une crise d'angoisse. Il faut le placer avec quelqu'un en cellule pour qu'il puisse prévenir qu'il est dans cette période de crise d'angoisse, tu vois.
D'accord. Moi, j'ai déjà fait une fois appel à la direction parce qu'il y a un des détenus qui a prévenu sa femme. Donc, de m'appeler et qui m'a dit, voilà, ton frère essaie de la serrer, ça va pas du tout, il est malade, il a demandé un médecin, personne ne vient le voir, il est enfermé, on sait pas pourquoi. Donc, aussitôt, j'ai appelé la direction de ma paume et j'ai demandé ce qui se passait. Parce que moi, j'ai pas de nouvelles de mon frère, j'avais pas de nouvelles de lui, hein. Ni courrier, ni appel autorisé, rien du tout. Je leur ai demandé, j'ai pas de parloir. Alors, on m'a fait galérer presque 2 mois pour un parloir.
Oui, parce qu'en fait, suite à ton...
Il a fallu que j'envoie des papiers, que je justifie. Et encore, même en envoyant des papiers, on me faisait galérer.
Donc ils t'ont retiré ton parloir 3 mois, quoi. C'est pas rien.
Suite à mon retard, voilà. Oui. On me l'a retiré 3 mois parce que je me suis...
Parce que
je me suis rebiffée.
Parce que t'as osé dire que c'était pas normal, que tu venais de Paris et que non, c'est pas normal, ouais, c'est injuste, bien sûr. Et que tu t'es retrouvée face à un deuxième mur. Alors, il y a les murs de l'administration pénitentiaire, puis il y a les murs mobiles, voilà, ceux qui bougent là, qui sont en bleu, les espèces de trucs là en bleu.
Alors, sans compter aussi que quand on ramène du...
Non, c'était linge.
Ouais. Alors, il y a une bonne partie du linge que j'ai jamais revu. Alors, il fait une demande pour... parce que moi, je lui ai dit que je t'ai mis des gants de sport, je t'ai mis une serviette. Je lui ai mis une serviette PSG parce qu'il aime le PSG.
Ouais, bien sûr. C'est
alors, autorisé. Vu que c'est le Nord, alors on prétexte que le PSG... voilà, vous voyez les soucis avec le Nord. Voilà. Donc, je pense que c'est par rapport à ça qu'il n'a pas vu sa serviette PSG, qui était à la taille réglementée.
Non, donc, puis de toute façon, tu as le droit de ramener une serviette, et puis même des grandes, hein, tu as le droit de toute façon.
Non, mais eux, ils ont un règlement un peu particulier. Donc un jour, c'est ci, un jour, c'est ça. Alors on m'a dit que j'avais le droit de ramener une couette, après on me dit que non. Je comprends pas. Et là, en plus, quand je l'ai eu au printemps, il me disait qu'il fait très, 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 très froid. Les cellules,
c'est des murs de pierre, c'est des blocs. Donc forcément, l'été, il fait chaud, l'hiver, il fait froid.
Exactement. Bon. Et puis on lui met aussi des pressions. Bah maintenant qu'il a quelqu'un qui vient lui rendre visite, donc on essaye de le provoquer avec « Ah bah t'as une sœur, ah bah ta sœur, elle t'aime ta sœur, bah ta sœur... Bon, » Après je vous passe les provocations, les détails. C'est vraiment pour le mettre hors de lui.
Oui, bien sûr. Ils veulent le pousser à la faute, en fait.
Voilà. Ils le poussent vraiment à bout. Ouais.
Donc je voulais dire à l'administration pénitentiaire et à cette fameuse directrice ou sous-directrice, je sais pas, Madame Le Boulanger là, que nous sommes le vendredi 16 octobre, que Abdelrazak n'est pas suicidaire, que s'il lui arrive quoi que ce soit, elle en est l'entière responsable, qu'elle est dans l'obligation de prendre soin de tous les prisonniers qui sont dans l'enceinte de son établissement, et en l'occurrence, malheureusement pour elle, Abdelrazak en est un, et il va falloir réagir là.
Ouais, et en plus de ça, il y a quand même les liens familiaux, ça fait partie du bien-être des prisonniers et prisonnières, et ça, c'est reconnu par l'administration pénitentiaire, et donc du fait que l'administration pénitentiaire, puis la prison localement, t'empêche d'avoir le parloir. En fait, ça, c'est aussi contribué à la torture que subit.
C'est de la torture psychologique, quoi. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord.
Exactement, quoi. Et du coup, c'était juste pour rappeler que ça fait aussi partie de leur
des droits aux prisonniers, ouais.
Enfin, ouais, puis la mission de la direction, quoi, d'assurer que les liens familiaux y soient maintenus, et que du coup, voilà, enfin, y a aucun lieu d'interdire des parloirs comme ça.
Est-ce que tu voulais nous dire autre chose qui te tient à cœur et tu peux dire ce que tu veux, hein. C'est ton antenne.
Moi, je sais que je sais qu'il m'écoute pas à l'heure actuelle. Je voulais simplement lui dire que voilà, qu'il s'inquiète pas, que je suis là pour lui, et quoi qu'il advienne, ça reste mon sang, même si j'ai pas grandi avec lui, ça reste mon sang, mon frère. Donc voilà. Donc il faut pas qu'il désespère. Je suis là. Non, c'est que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai pas envie de le ramener entre quatre planches à mon père, quoi. C'est ça.
C'est clair.
Non, mais en tout cas, nous aussi, on lui envoie toutes nos forces et on continuera de donner de ses nouvelles et de okay. relayer. Dès que tu as besoin, cette antenne, c'est la tienne.
Exactement. Enfin, t'es à côté, en plus, tu viens quand tu veux.
Je tiens à remercier aussi Marilyn, qui a été d'un grand soutien et qui m'a vraiment bien, bien remonté le moral. Et bon courage à son mari aussi.
Grave.
Et parce que il n'est pas le seul, mon frère, dans ça.
Non, on va en parler.
À subir des persécutions.
Justement, c'est bien que tu sois là parce qu'on on va parler du cas de Michel maintenant. Je pense que tu en as entendu
parler. Oui, j'en ai entendu parler.
Alors, Michel, c'est un prisonnier qui est aussi au mitard, il me semble. Oui. Ou non, il n'est pas au mitard. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Michel est malade. Il est épileptique handicapé. Il a la maladie de Verneuil. Et il a un appareil respiratoire. Faut savoir qu'il est obèse et qu'il a du mal à se déplacer, qu'il a du mal à se lever. Et donc, pour s'amuser, on le fait souvent mettre à genoux pour des fouilles à nu et jouer de son problème de poids, qui est un handicap, bien évidemment, pour amuser la galerie. Voilà.
C'est inhumain.
C'est très grave, ouais. Il faut savoir qu'un matin, Michel, qui est reconnu, comment dire, il a rencontré plusieurs fois le psychiatre qui a fait un signalement au CMPR, donc au médical, en disant qu'il était en danger. Un matin, il doit aller voir ce psychiatre et le surveillant qui lui ouvre la porte décrète qu'il n'ira pas. Donc il est en colère et il l'exprime, pas violemment, mais il exprime qu'il est en colère, il y a de quoi l'être. Et vu que son état de santé n'est pas compatible avec le mitard, on décide de le faire passer au prétoire lundi prochain. Mais le temps, donc dans 2 semaines, ça fait 2 semaines de ça, et ben il l'empêche de sortir en promenade et il le coince dans sa cellule. C'est pas légal. Voilà, ça veut dire que là il est jugé avant même de passer au prétoire là, tu vois. Ensuite, un matin, avec sa maman, il a un parloir avec plexiglas, puisque c'était au moment du Covid. Et voilà, c'est un peu l'acharnement à Bapaume. C'est pour vous expliquer un petit peu comment Bapaume s'acharne sur les gens et comment ils enlèvent les parloirs, voilà, c'est devenu un moyen de chantage, c'est open bar, hein, c'est on t'enlève le parloir pour rien du tout. Et donc ils font leur parloir tranquille, sa maman rentre et reçoit un appel de l'administration pénitentiaire et on lui dit bon ben on vous retire votre parloir parce que sur le parflex il y avait une griffure. Elle dit, mais elle ne comprend pas trop bien. Elle dit, oui, il y avait une petite griffure sur le parflex, donc on vous retire votre parloir. Faut savoir que Michel, donc, étant donné qu'il est handicapé, il touche une rente. Et on lui prend une première fois 30 euros et une deuxième fois 150 euros pour payer le parflex. Pour qu'à la finale, l'avocat arrive à faire en sorte que les parloirs ne soient pas suspendus. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la finale, ils ne suppriment pas les parloirs. Mais par contre, ils ont pris cet argent et ils ne lui ont jamais rendu. Donc, ça s'appelle déjà du vol, Madame le Boulanger.
Non, puis c'est quoi ce putain de délire, quoi ? Enfin, on va faire quoi ? On va faire un état des lieux avant de commencer son parlu pour ne pas se faire prendre une caution ? C'est de la folie, quoi. Qu'est-ce qu'on en
alors sait, que eux ils te perdent tes parloirs, ils te perdent mais tes grave. Chaussures, ils te perdent tes tu vois, ils te rendent pas tes affaires.
Ils te lacèrent tes vêtements,
bien sûr.
Ces putains de plexis doivent être supprimés. Enfin voilà quoi, il y a la décision à Caen qui dit il faut les enlever et tout, donc ils doivent les supprimer.
Les remettre à Bapaume là.
C'est de la folie.
Ça avait été retiré, mais aujourd'hui ils les remettent à partir de cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas, mais en tout cas ça arrive là. La galère des parloirs arrive les gars. Désolé.
Ouais, on fera un petit point tout à l'heure là sur sur.
Ouais, puis c'est quand même un truc de ouf de prendre 180 balles pour du plexiglas qui est posé par des prisonniers qui sont sous-payés par l'administration pénitentiaire et qui ont certainement été fabriqués dans d'autres prisons, quoi.
Et du coup, exactement. Ouais, c'est, et puis c'est voilà, c'est complètement ridicule et c'est encore pousser les gens à la faute. Faut savoir que du coup à la finale.
Et puis juste pour rajouter aussi, enfin peut-être que les gens à l'extérieur ils se rendent pas, enfin les gens beaucoup se rendent compte de c'est quoi 150 euros, voilà.
180.
Mais je veux dire, enfin c'est 1000 balles, c'est 1000 balles à l'intérieur, quoi. Enfin parce que faut pas oublier que chaque fois que tu fous un mandat, il y a la moitié qui est pris par l'administration pénitentiaire à partir d'un certain montant. Enfin voilà, donc enfin c'est vraiment une somme mais énorme, quoi. Enfin c'est vraiment de la folie, quoi.
Et donc aujourd'hui, donc en fait même, enfin, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, il a des gros problèmes de santé. Il y a dernièrement, il a craché du sang et en remontant de promenade, c'est un co-détenu qui a dû l'aider à monter parce qu'il faisait des malaises. On pense qu'il est peut-être, il a fait peut-être plusieurs petites ruptures d'anévrisme, en vrai, parce que aujourd'hui. Il peut presque plus parler. Il a du mal à parler. Il se réveille avec de l'urine sur lui. Donc on pense qu'il fait encore des crises d'épilepsie. Et que aujourd'hui, je pense que réellement, il a vraiment, il est dans un réel danger en vrai, vraiment. Et que ça me fait rappeler l'histoire de Tahir à Sékedin. Qui est parti et qui est mort d'un ulcère à l'estomac. C'est pas Tahir, c'est Adil. On en a beaucoup parlé ici. Et du coup, le fait qu'il saigne, le fait qu'il ait des douleurs au ventre, le fait qu'il fasse des crises d'épilepsie, le fait qu'il ait un appareil respiratoire et que, par exemple, le matin, quand il dort, il a du mal à se réveiller. Donc, même quand il était chez lui, sa maman m'expliquait que des fois, on avait l'impression qu'il était mort parce que, justement, s'il a cet appareil respiratoire, c'est que des fois, son cœur doit un petit peu s'arrêter, quoi, et repartir. Et que quand les matins, enfin, il faut savoir que tous les matins, quand tu es dans ta cellule à 7 heures, les surveillants t'ouvrent et te disent bonjour en pensant que c'est de la politesse, mais en vrai, il faut répondre pour dire qu'on n'est pas mort. Et des fois, il ne répond pas, ce qui fait qu'il rentre dans sa cellule et certains se permettent de lui mettre des coups de clé dans le dos, par exemple. Voilà comment on réveille un homme malade avec un appareil respiratoire en prison à Bapaume, sous la direction de Madame Le Boulanger, 3e édition. Et donc je voulais spécifier encore à Madame Le Boulanger que Michel est un prisonnier incarcéré à Bapaume sous sa responsabilité, qu'on est le vendredi 16 septembre, octobre, autant pour moi, le vendredi 16 octobre, que s'il lui arrive quoi que ce soit, aujourd'hui ce sera encore une fois de sa faute et sous son contrôle. Et qu'elle ne pourra pas dire qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe dans ses locaux, puisque c'est une émission enregistrée sur la bande FM, qu'elle est téléchargeable sur le site de l'envolée.net, et qu'on est beaucoup écouté, malheureusement pour elle.
Et d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, on ne l'avait pas encore trop dit, mais on est de nouveau, enfin, on est émis à Arras, qui est pas loin de Bapaume. Donc on ne sait pas si ça va jusque-là, mais c'est sur PFM, c'est 99.9. Donc s'il y a des gens qui nous entendent, et on est rediffusé...
Au micro, Serge, on ne t'entend pas, au micro.
T'es contente hein, de pouvoir le faire.
Un régal.
On est rediffusé le mercredi à 21h30, le jeudi, de la nuit du jeudi à vendredi à minuit, le vendredi et le samedi à 3h30 du matin, et la samedi, donc le mardi à 21h30. Voilà, c'est la principale, voilà. Et donc on espère que ça arrivera jusqu'à là-bas. Normalement, je crois que oui.
Alors, je voulais spécifier aussi qu'au départ, on ne devait pas parler de Michel. Qu'on avait effectivement pas mal de choses à gérer. Alors je vais quand même, par précaution, hein, donner le nom de famille de Michel, parce que Michel, à mon avis, il n'y en a pas qu'un.
Mais pour cela, il faudrait que je le retrouve.
Ouais, et en attendant, peut-être juste rappeler que dans tout, enfin, en fait, ce qu'on raconte là à Bapaume, ça se passe dans tout un tas de prisons. Et que c'est le cas aussi pour Fabrice Borromée, qui est en manque de soins et que l'administration pénitentiaire a mis, enfin, met des années à soigner pour des problèmes hyper graves qu'elle a causés elle-même. Parce que l'enfermement, ça a atteint la santé. Qu'en plus de l'enfermement, il y a la violence des matons. Dans le cas de Fabrice Borromée, il y a l'histoire de la grenade où il perd quand même.
Assourdissante,
dans une douche toute petite où il perd l'ouïe, si je dis pas de conneries, enfin de l'oreille gauche.
Il perd l'ouïe.
D'une oreille, ouais.
Ouais. Et du coup, voilà, en fait, il y a quand même ce qu'on décrit là à Bapaume, c'est un système qui est mis en place par l'administration pénitentiaire pour faire du chantage sur les prisonniers et pour leur mettre la pression. Mais en tout cas, il y a un truc qui se passe dans toutes les prisons. Et pas qu'à Bapaume, même si à Bapaume, il y a beaucoup de prisonniers qui prennent très très cher en ce moment. Enfin, voilà, juste pour dire que ça se passe dans beaucoup de prisons, quoi.
Donc, il s'appelle... Tu vois, alors déjà, je voudrais... Bon, j'arrive. Continue à parler, c'était bien ce que tu disais.
Tu veux chanter, sinon, Sylvia ? Non ? T'as pas très envie ?
Non.
Non, mais c'est clair que... Voilà, et puis sinon, on peut aussi parler aussi de Jean-Christophe, qui a été transféré dernièrement, et on a lu la lettre de ses proches et de ses amis au début de l'émission dernière, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et qui, pareil, lui aussi vit des conditions complètement horribles, voilà, et qui avait été enfin mis dans une cellule qui était... à peu près viable avec ses conditions de santé. Et au moment où ils lui ont donné ça, ils le transfèrent exprès dans des conditions abjectes qui ont été racontées. Et c'est juste pour rappeler qu'il y a une loi qui existe en France qui s'appelle la loi de suspension de peine. Donc c'est pas une loi qui permet d'enlever ta peine, mais qui dit à un moment t'as des conditions de santé qui sont pas suffisantes, enfin voilà, et tu t'as le droit de sortir. Cette loi, en fait, elle a servi qu'à Papon, parce que elle sert à faire sortir des gens 2 semaines avant leur décès.
C'est
absolument intolérable que des personnes soient encore emprisonnées dans des conditions pareilles. Il y en a eu des tas, des gens qui étaient en faute.
Béa qui nous avait écrit, qui est morte 2 semaines après, que ses lettres, sa lettre soit publiée sur l'envolée, le numéro 47, je crois.
Et c'est à chaque fois, c'est la même chose. Voilà, ils font sortir les gens juste à la fin pour pas que ça soit dans leurs chiffres. Voilà, mais...
Relou, en vrai, quand tu meurs dans leurs locaux, tu vois ce que je veux dire.
C'est ça. Après, derrière, il faut commencer à se justifier. Non, mais
c'est vrai, ils ont plein de choses...
Ils doivent se justifier, tout ça, de pas avoir soigné quelqu'un.
Après, effectivement, voilà. Quand ils tuent un mec à coup de bottes ou par leur par asphyxie, par exemple, d'un écrasement de la cage thoracique, dire qu'il est mort de mort naturelle, ça les arrange, ça va plus vite. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on propose et qu'on dit souvent aux familles de demander une contre-autopsie parce que c'est souvent des menteurs. Donc voilà, alors il s'appelle, je voudrais revenir sur Michel, il s'appelle Michel Carincotte. Il est incarcéré à Bapaume. Effectivement, il a demandé à sortir avec cette fameuse loi où, bien évidemment, la suspension de peine, ça lui a été refusée. Il n'est pas assez malade ou pas bientôt mort. Donc il a fait, bien évidemment, appel. On va, bien évidemment, essayer de faire une lettre pour pouvoir appuyer sur le fait que ce jeune homme, ce monsieur soit... Et sa peine suspendue. Et donc, je répète qu'on est le vendredi 16 octobre et qu'aujourd'hui, il n'est pas mort et qu'on espère que ça continue de la sorte et qu'on en parlera. Enfin, au départ, on ne voulait pas...
Oui, il faut qu'il sorte, en fait. C'est la même chose qu'avec Jean-Christophe. Pardon.
Non, c'est qu'au départ, on voulait pas, on n'avait pas cette place pour parler de Michel. On avait plein de choses à dire et tout, et donc on a préféré privilégier cette histoire et d'en parler. J'ai pas tout dit. Faut savoir qu'on a tout le dossier de cet homme médical, pénitentiaire, et on va bien tout scruter, bien regarder. Et vendredi prochain, on pourra pas parce que voilà, l'émission elle sera certainement enregistrée. Mais vendredi d'après, si on peut en reparler. Et faire une émission plus approfondie où on peut dire plus de choses et avec plus d'éléments, ce sera fait. Voilà.
On passe un petit coup de zik.
Ouais.
souvenir éclairci par les gyrophares. Sous la plume montée sur le bas côté, le lourd emballé dans du cellophane. Poto, crois-moi, c'est d'une rare beauté. Si t'as fait le traître ici, vite tu cannes. Deux ensembles qui sont noirs sur une bécane. La rue, c'est ma mère, mon Dieu, que je l'aime. Il est temps de couper le cordon ombilical et ça détaille la dope comme à Compton. Mais claquer le bénet, Faru Rivoli. Ça prépare la guerre comme à Tripoli. Balle dans la tête comme chez Luca Toni. Cette année, poto, je les enterre profond. Comme le côté des Z, Big Flo et Oli. On cherche de la frappe, de la moulaga. Ça débite fort pour finir Bouraga. J'ai grandi, j'ai vu, j'ai joué avec la rue jusqu'au jour où je me suis brûlé. Et si ça frappe à la porte, on assume, on dit rien au poste jusqu'à l'atoll. Ouais, jusqu'à l'atoll. Au dépôt escorté par les pimpons. Pimpons, pimpons. J'suis dans le bac, je sers, j'entends les pimpons. Pimpons. J'ai même vu des balances au car plat. Donner des potes pour des RPE. Elle m'a dit Soso, j'ai peur pour toi. Un matin dans son bureau la CPE. Alors du coup j'ai jeté mon cartable. Dans le bloc j'ai trouvé du Radma. J'ai numéro de chouf dans mon portable. Et dans la cuisine ça détaille DGE. Et je compte et recompte le bénéfice. Le métal de la guitare sur la cuisse. Gère le bis comme Albanais de Suisse. Mais je pense que je suis le prochain sur la liste. Parce qu'à ce moment frère je fais des rêves bizarres. Où je perds mes dents devant mon miroir. Et j'ai tellement peur d'enterrer ma mère. Que le soir je gamberge à partir avant elle. J'ai grandi, j'ai vu, j'ai joué avec la rue. Jusqu'au jour où je me suis brûlé. Et si ça frappe à la porte, on assume, on dit rien au poste jusqu'à l'atoll. Ouais, jusqu'à l'atoll. Au dépôt escorté par les pimpons. Pimpons, pimpons. J'suis dans le bac, je sers, j'entends les pimpons. Pimpons. Ça s'inverse, je me console seul la nuit. Brassard orange qui me piste, éclairé par la lune. J'avance pas à pas, et je vais t'en mettre une entre les yeux si tu peux plus me voir.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envoléa. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19e. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10. Est-ce qu'on fait un point Covid tout de suite avec Serge?
Ok, on prend des pourvus comme ça. Non, mais oui, il faut qu'on. Ça fait bizarre de faire le point Covid dit comme ça. Voilà. Je sais, Sylvia, que ça t'intéresse pas que les gens ils aient plus de parloir. Voilà. Donc, voilà. Désolé. Sylvia est pas très sage aujourd'hui. Elle fait plein de bêtises. Ouais, non, mais c'est juste pour revenir là-dessus, parce que là, il y a plein de. Alors, ils appellent ça des clusters, mais donc, il y a plein de gens qui ont été contaminés dans pas mal de prisons. Voilà. Vendredi dernier, on n'en a pas parlé, mais il y a eu une décision, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2-3 semaines, on a eu un avocat de Toulouse qui avait réussi à ce que le tribunal administratif de Toulouse donne accès à tous les prisonniers des masques et des tests. C'était pas obligatoire, c'était que les prisonniers puissent avoir accès soit à des tests, soit à des masques, et donc c'était très très important ce truc-là, c'était pas du tout un truc qui était obligatoire.
C'était obligatoire pour l'administration pénitentiaire, voilà. Qui jusque-là s'y refusait, en disant dans tous les cas, au pire, on fout tout le monde en quarantaine, quoi.
C'est exactement ça. Et voilà. Et donc là, le ministère de la Justice avait le temps de faire appeler, avait un mois, je crois, pour faire appel, et a fait appel au dernier jour. Voilà, et c'est passé devant le Conseil d'État. Dans le Conseil d'État, c'est celui qui a déjà refusé, pendant le confinement, de libérer plein de prisonniers. Et donc là, ils ont continué et ils ont dit « Ok, la décision qu'il y a eu au tribunal de Toulouse, en fait, on va pas l'appliquer. Enfin, il n'y a pas besoin de l'appliquer et tout ça. » Et paf, 3 jours après, cluster à Seis. Voilà. Et donc, il se retrouve à tester tout le monde et à filer des masques. Voilà. Et, mais donc là, mais c'est là aussi où c'est important qu'il y ait cette décision du Conseil d'État. Parce qu'en fait, là, ils ont dû appliquer la même chose que ce qu'ils ont appliqué pendant le confinement, c'est-à-dire des tests obligatoires pour les gens et sinon confinement pour les autres qui refusent, quoi, comme ça a été le cas à côté de Nancy, je crois, si mes souvenirs sont bons, pendant le printemps. Voilà, là, comme la vague est en train d'arriver, enfin de monter, enfin le nombre de contaminations, j'aime pas le terme de vague, est en train d'augmenter en France, bah ça arrive aussi dans les tôles. Et donc ils commencent, paraît-il, à distribuer quelques masques dans Paris et la petite couronne. Et voilà. Mais comme d'hab, en fait, c'est les masques qui vont être obligatoires à porter, ou ce genre de choses. Et donc là, il y a à Seis, il y a à Nantes et à Angers aussi, où là, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de contamination. Et surtout, il y a à Fresnes, où les parloirs sont déjà en train de sauter et tout. Et
surtout au Détroit.
Surtout, principalement au Détroit.
Voilà. Et là, l'administration pénitentiaire, elle prend pas la peine d'appeler les familles une par une pour expliquer qu'il n'y a pas de parloir parce qu'il y a des personnes qui ont le Covid, contrairement à d'autres histoires qu'on racontait tout à l'heure.
Ouais, il y a d'autres endroits où ils le font, hein, ils essayent de le faire un petit peu. Après, en vrai, c'est clairement pas le cas. Enfin voilà. Et en vrai, là, ce qui est en train de se passer laisse craindre franchement qu'ils vont refaire exactement le même coup d'interdire les parloirs et tout. Déjà que depuis le déconfinement, on n'a pas récupéré des parloirs normaux et tolérables. Voilà. Et là, clairement, ils vont. Bah là, enfin, on racontait à Bapaume qu'ils étaient en train de remettre les plexis. Ils vont encore redurcir, voilà, en justifiant que c'est plus dangereux, tout ça, gna gna gna. Voilà. Alors qu'ils font rien à l'intérieur et voilà.
Donc, non, le truc, c'est qu'il y a même eu un article de presse qui disait que c'était les matons qui ramenaient le Covid en détention. Ça, c'est... Les familles, elles sont dans l'obligation de garder le masque. Elles n'ont pas le droit de se toucher, sinon elles se voient retirer leur parloir. Donc effectivement, les précautions du côté des familles, quand elles arrivent voir leurs proches, et de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'est pas des abrutis pour aller contaminer notre proche en détention tout en sachant qu'il n'y a pas de soins et qu'il ne sera pas soigné à l'intérieur ou que ce sera une vraie galère et que déjà d'être enfermé.
Être puni, quoi, en fait.
Voilà, tu vois. Donc effectivement, on n'est pas des abrutis, nos familles, quand on va voir nos proches. Mais eux, quand ils vont voir leurs proches, qui vont faire leurs courses, qui viennent sans masque ou qui s'amusent à cracher sur la télé des gens.
Qu'ils organisent des masques de botch à la santé avec voilà. Leurs copains keuf.
Mais dans, à Longnex, par exemple, ils ont craché sur la télé d'un prisonnier. Et qu'est-ce qui me dit qu'il n'était pas contaminé, ce gros crado-là ?
Ouais, puis à Fresnes, en fait, parce qu'on en parlait, genre, quand même, ces dernières semaines, c'est rare quand on y allait en parloir, de voir des matons masqués, en fait. En dehors de 2-3 matons que tu peux croiser, l'essentiel des matons, ils ne sont pas masqués et ils ont l'air de se taper des barres entre eux, quoi. Par contre, ils viennent te casser la tête pour que toi, tu te masques et pour pas que tu puisses toucher ton patou ou ta mifa à l'intérieur, quoi. Du coup, c'est évident que le virus, il vient par eux. En plus, ils font que traîner ensemble en permanence puisqu'ils habitent à côté de la prison, etc. Et du coup, forcément, en fait, si on devait parler de genre cluster ou je sais pas c'est quoi le terme en français, et bah du coup, ce serait forcément chez les matons qu'il faudrait aller le chercher, quoi. Et du coup, le port du masque obligatoire et le test obligatoire pour les matons qui rentrent en prison, ça, ce serait important, en fait, je pense, quoi.
Et juste face à ça, en fait, les prisonniers, ils ont leurs moyens de se défendre. Et donc, il y a un prisonnier qui a été sur les toits à Moulins et qui a demandé son transfert. Voilà. Et il y a aussi un autre prisonnier du côté de Roanne qui a été malheureusement récupéré après un mois de cavale, mais qui avait prévu le coup et qui souhaitait se confiner chez sa daronne. Et voilà, ils l'ont récupéré, mais voilà. Enfin, c'est les seules manières de se protéger. Et juste pour terminer sur ces petits big up là, il y avait une petite balade à cheval qui s'est passée dans les collines de la Haute-Loire près de Saint-Étienne à la Tolaudière. Et puis bah, ils sont partis en balade à, je sais plus, 7 ou 8 prisonniers qui ont été amenés en promenade. Et bah, il y en avait un moins en sortant. Et donc on lui souhaite une très bonne cavale. On ne sait pas s'il est parti avec l'âne ou pas. Mais
ouais,
en tout
c'est
cas,
cadeau, poteau. C'est toi, c'est lui qui ragale moi.
Voilà. voilà, on souhaite une très très bonne cavale bonne cavale et bon courage pour le couvre-feu qui arrive aussi à Saint-Étienne et tout, mais voilà, on te souhaite une bonne cavale. Et c'est la même merde dans les cras.
Ouais, bah, de toute façon, c'est ce qu'on racontait la semaine dernière et les dernières semaines. En centre de rétention, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est les keufs qui ramènent principalement le Covid, qui font les allers-retours, puisque du coup, c'est les keufs qui font les matons dans les prisons pour sans-papiers. Et quand il y a des personnes qui sont malades, leur réaction, c'est de mettre les gens en mitard, donc à l'isolement, dans une espèce de double punition. Et de l'autre côté, ils empêchent les parloirs, qui sont le seul moyen de récupérer de la bouffe, l'équivalent de la cantine, quoi, en prison. Et du coup, voilà, c'est toujours la même logique. Et c'est pour ça qu'en centre de rétention, donc dans les prisons pour sans-papiers, le refus de test est devenu un gros enjeu, à la fois pour éviter l'expulsion, mais aussi pour éviter l'espèce de double punition qu'il y a. Parce qu'une fois que tu es désigné malade, enfin, une fois qu'il y a un test qui t'a montré malade, en fait, tu te retrouves à prendre encore plus cher, quoi. Et c'est pareil, c'est-à-dire que les keufs font absolument pas attention. Les trois quarts du temps, ils sont pas masqués. Il y avait pas mal de vidéos qui tournaient pendant le confinement de keufs qui s'amusaient à les tousser ou qui s'amusaient à faire n'importe quoi dans des bâtiments, notamment à Lille. Et voilà. Et du coup, c'est force. Enfin, évidemment, ça vient par eux, quoi. Ouais, bah peut-être qu'on va enchaîner en parlant un tout petit peu de la manifestation, parce que là, au bocal, ils sont...
Ils
parlaient de toi tout à l'heure, mais il n'est pas mieux.
Mais
tranquille, retourne là-bas.
Alors, en fait, je vous explique ce qui se passe, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a Serge et Arthur au bocal. C'est fini, vous n'êtes plus jamais tous les deux dedans. C'est terminé.
Hey, on avait coupé le micro, on fait ce qu'on veut.
Ils étaient en teuf, les deux. Non, mais franchement, c'était... c'est pas possible. Grave.
Ouais, et du coup, comme on l'avait annoncé la semaine dernière... depuis le 19 septembre, enfin on en parle depuis plusieurs semaines, mais depuis le 19 septembre, il y a une marche des solidarités nationales pour les sans-papiers qui arrivent vers Paris et qui arrivent vers Paris demain. Et du coup, depuis le 19 septembre, il y a eu tout un tas de manifestations devant des centres de rétention. Et aujourd'hui, il y avait un appel à aller devant le centre de rétention de Vincennes à 16h30 tout à l'heure, et un autre appel à aller devant le centre de rétention de Saint-Exupéry à Lyon, où on a lu des témoignages récemment qui racontaient la violence des keufs et dont on a souvent parlé parce qu'il y a eu beaucoup de luttes là-bas ces deux dernières années. Et du coup, nous, on va vous parler rapidement de la manifestation qui a eu lieu cet après-midi et on va continuer l'appel pour la manifestation de demain, parce que demain, donc, c'est la marche nationale des sans-papiers, avec l'idée d'essayer d'aller marcher vers l'Élysée pour imposer un rendez-vous donc à Macron, là, qui veut mettre le couvre-feu à tout le monde, et espérer obtenir une régularisation de tous les sans-papiers, et donc la fermeture de toutes les prisons pour sans-papiers. Voilà. Du coup, aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'il y a eu une manifestation devant la prison pour sans-papiers de Vincennes. Peut-être juste pour rappel, la prison pour sans-papiers de Vincennes, c'est une prison qui est donc au bout du bois de Vincennes, au niveau de la ville Joinville-le-Pont, au niveau du RER A. Et c'est entre une école de keufs, donc il y a des keufs à la fois jeunes et des keufs baqueux qui viennent s'entraîner, quoi. Et une école de chiens de keufs. Donc voilà. Donc en gros, c'est entre ça, il y a des trois bâtiments qui servent à enfermer des sans-papiers. C'est un lieu historique quand même d'enfermement, Vincennes, pour les étrangers. Et voilà. Et du coup, donc, c'est un des gros centres de rétention qui servait d'arrivée pour les personnes qui étaient testées positives ces derniers mois. Donc comme on l'expliquait la semaine dernière, c'est maintenant le centre de rétention de Plaisir, donc un autre centre de rétention où ils envoient toutes les personnes qui sont testées positives en Île-de-France dans les CRA. Et donc, comme je disais, désolé, je me perds un peu, aujourd'hui, il y avait un appel à aller manifester devant la prison pour sans-papiers de Vincennes pour apporter notre solidarité aux prisonniers à l'intérieur qui prennent particulièrement cher. Juste pour dire un peu comment ça se passe là-bas en ce moment, il y a trois bâtiments. Il y a le bâtiment 1, donc là où, devant lequel a eu lieu la manifestation, où sont enfermées grosso modo 70 personnes. C'est là où sont enfermées toutes les personnes qu'ils considèrent comme pas malades. Et il y a deux bâtiments des arrivants, où dès qu'il y a une personne qui est malade, en fait, c'est quarantaine pour tout le monde, quoi. Ils testent pas tout le monde, c'est quarantaine, et tout le monde est enfermé ensemble, malade, pas malade. Voilà. Et du coup... aujourd'hui, il y avait plus de 200 personnes qui se sont réunies au RER à Joinville-le-Pont à l'appel du collectif Sans Papiers de Montreuil et de l'Assemblée publique contre les centres de rétention qui se passe donc tous les mercredis, mais enfin bon, ça on en a souvent parlé. Donc ça faisait très longtemps, je sais pas moi, depuis deux, trois ans, on n'a pas vu autant de personnes devant cette prison, quoi. C'était donc à la fois des sans-papiers, des personnes qui se battent contre les frontières, des gens du CSP 20e arrondissement, etc. Des marcheurs aussi de certains bleds, enfin de certaines autres villes. Et du coup, ce qui était, enfin bon, déjà la première remarque à faire, désolé, c'est le dispositif policier qui était genre totalement dingue. Il y avait je sais pas combien de camtars de CRS qui étaient mobilisés, une cinquantaine juste après le RER, une cinquantaine en plus de gendarmes au niveau du point de rassemblement. Il y avait 40 braves, donc la brave, pour rappel, c'est une unité qui a été créée par le préfet l'allemand, là, le préfet actuel de Paris, qui en fait c'est le retour des keufs à moto. qui viennent pour charger les manifestations. On rappelle que c'est des unités qui ont été dissoutes il y a une trentaine d'années parce qu'ils ont été responsables de la mort de quelqu'un à côté d'une manifestation, quoi. Et du coup, donc, c'était ça le dispositif avec drones, les baqueux qui tournent un peu, pas mal de keufs cachés derrière des arbres, parce que c'est le bois de Vincennes, quoi. Et voilà. Donc, malgré tout ça, il y a quand même eu un cortège hyper dynamique qui est parti de Joinville-le-Pont, qui a rejoint le centre de rétention. Les keufs ont...
ouais. Tout ça parce qu'en fait, on vient soutenir des gens qui sont enfermés parce qu'ils n'ont pas leurs papiers. C'est quand même aberrant de mettre un système de sécurité aussi fou, quoi.
Ouais, et sachant que, contrairement à d'habitude, c'est une manifestation qui a été déclarée à la préfecture. Parce que du coup, juste pour rappel, en France, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation de manifester. On déclare juste le fait qu'on va aller manifester. Et du coup, là, c'était déclaré et autorisé par la préfecture. Et malgré tout, il y avait un dispositif, c'est ce que je disais, totalement dingue, mais en fait, qui va un peu dans la foulée de ce qui s'est passé ces derniers mois dans les manifs de sans-papiers. On s'était fait le relais de la manif du 31 mai à Paris, du coup, qui était une des premières grosses manifs d'après le confinement, qui était pour exiger, pareil, régularisation de toutes et tous les sans-papiers, fermeture de toutes les centres de rétention, parce que ça va ensemble, et des logements dignes pour tout le monde, avec ou sans papiers. Et du coup, il y avait eu pareil un dispositif qui était totalement dingue, c'est-à-dire des CRS de partout, la BRAF qui est mobilisée, des drones qui survolent Paris, l'hélico qu'on entend, etc. Donc, tout un truc qu'on voit maintenant assez régulièrement dans les manifs syndicales, dans les manifs gilets jaunes, etc. Mais qui sont quand même assez rares dans les manifs de sans-papiers, quoi. Et donc, suite à cette grosse manifestation, il y avait une autre grosse manifestation le 20 juin, toujours à Paris et dans pas mal d'autres villes. Toujours pour les mêmes raisons.
Le 20 juin.
Le 20 juin, donc il y a 3 mois. Ah. Voilà. Et du coup, c'est cette manifestation-là, c'est de cette manifestation-là qu'est parti l'appel dont je parlais, à venir marcher d'un peu partout en France pour aller se rendre tous ensemble et tout ensemble devant l'Élysée et pour exiger que les collectifs de sans-papiers soient reçus par Emmanuel Macron pour qu'il fasse pour qu'il abroge le CESEDA et donc qu'il y ait régularisation de tous les sans-papiers ou plus de papiers du tout, la fermeture de tous ces centres de rétention. Je vais juste rappeler les différents rendez-vous pour demain. C'est pour celles et ceux qui sont dehors et qui sont en Île-de-France. Demain, il y a rendez-vous à 10h à Porte de Montreuil pour celles et ceux qui habitent dans l'Est. Il y a rendez-vous à 10h à Porte de Choisy. Pour les gens du 94 et du 13e. Et il y a un rendez-vous à La Chapelle, porte de La Chapelle à 11h pour toutes les personnes du Nord. À chaque fois, ces portes-là, ce sera des lieux d'accueil pour les marcheurs qui viennent des autres villes. Et en même temps, ça va permettre de converger tous ensemble vers la place de la République. Pour le moment, la préfecture, elle a interdit le reste du parcours, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir accéder à l'Élysée. Mais dans tous les cas, les collectifs de sans-papiers, ils ont maintenu l'idée et la volonté d'aller marcher sur l'Élysée. Comme ça se passe depuis un peu plus de deux ans avec les gilets jaunes, quoi. Et donc l'idée, ça va être d'imposer ça demain. Et donc on espère être le plus nombreuses possible. Il y a tout ce qui est possible qui est appelé à ces rassemblements, quoi. Et juste pour dire que du coup, dans le même temps aujourd'hui, il y avait un autre rassemblement à Lyon. On appelle au collectif contre les centres de rétention de là-bas. C'est le deuxième rassemblement qui a lieu là en moins de deux semaines là-bas, devant cette tôle. Pareil, c'est une tôle qui est un peu particulière parce qu'elle est juste à côté de l'aéroport Saint-Exupéry. Donc elle est dans une zone qui est particulièrement protégée parce que toutes les zones aéroportuaires sont particulièrement... il y a à la fois des keufs, la douane, la PAF, des militaires, la sécurité privée. C'est toujours des zones un peu dingues, quoi. Pour celles et ceux qui sont à Paris, vous voyez bien, c'est assez rapide qu'ils sortent leurs avions de chasse, quoi. Et du coup, il y a eu une manifestation, la deuxième en 2 semaines, pour apporter la solidarité aux prisonniers qui, pareil, là-bas, exigent la fermeture du CRA depuis très longtemps. Et au contraire, ce qu'est en train de faire la préfecture, c'est qu'elle a acheté un terrain pas très loin, toujours dans la zone aéroportuaire, pour construire un deuxième centre de rétention. Le premier centre de rétention actuel, donc qui est un centre de rétention où ils peuvent enfermer des femmes et des hommes, quoi. Il y a 140 places, si je ne dis pas de conneries, ils veulent en créer un de la même taille, juste à côté. Et les travaux sont prévus d'être finis d'ici fin 2021. Voilà, parce que c'est Macron qui veut l'afficher pour sa campagne, quoi. Et c'est juste pour dire que c'est totalement délirant.
Parce qu'il croit qu'il va repasser celui-ci, là. Il va rêver. Il va repasser devant, comme ça, tu vois, devant l'Élysée.
Ouais, et juste pour dire, en fait, la préfecture de Lyon, c'est une préfecture qui expérimente beaucoup en France, beaucoup des trucs, des pratiques policières particulièrement racistes, les rafles de mineurs, etc., etc., elles sont parties de Lyon, en fait. Et c'est pas pour rien que le maire de Lyon a été nommé ministre de l'Intérieur au début du gouvernement, à la fin du quinquennat. Et donc voilà, on apporte toutes nos solidarités aux prisonniers là-bas. On continuera de donner de nouvelles aussi, pareil, dans les prochaines semaines. Voilà.
Et on va vous parler. Vas-y.
Ouais, juste pour continuer, en fait, pour revenir sur le rassemblement à Vincennes tout à l'heure, désolé. Ouais, juste pour dire qu'en fait, du coup, il y avait ce dispositif là, totalement dingue. Et en fait, du coup, ils contrôlaient les gens une fois que le rassemblement a commencé. Deux trucs qui restent à dire. Le rassemblement, il est arrivé derrière la prison comme prévu. Comme d'habitude, du coup, les prisonniers du centre de rétention, ils ont pu entendre, ils ont pu manifester à l'intérieur en même temps. On espère que la répression n'a pas été trop violente. On essaiera de donner des nouvelles de ce qui s'est passé à l'intérieur. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, les keufs, donc il y avait un gros dispositif qui était juste derrière le centre de rétention. Il y a eu aussi, dans le même temps du rassemblement, il y a eu des feux d'artifice en solidarité avec les prisonniers à l'intérieur. Enfin bref, du coup, un truc assez festif, quoi, un peu plus loin dans le bois. Et il y a eu deux interpellations à la fin du rassemblement par deux personnes qui venaient rejoindre le rassemblement, sûrement pour des motifs de merde, parce que de toute façon, les keufs, on le sait, ils ont tous les droits pour interpeller n'importe qui, pour trouver n'importe quel motif, que ce soit outrage, n'importe quoi, quoi. Et voilà, du coup... Ouais, c'est ça. Et du coup là, on apporte toute notre solidarité aux deux copains copines là qui sont fait attraper. On espère qu'ils seront libérés dans la soirée, qu'ils passeront pas en garde à vue, quoi. Et voilà, beaucoup de solidarité à LE et on donnera des nouvelles dans 2 semaines.
Ok, bah, Serge, à toi.
Ouais, juste un petit truc dont on n'avait pas parlé ces derniers temps par manque de temps, mais en vrai c'est important. C'est actuellement il y a une nouvelle prison qui risque d'être construite en Seine-Saint-Denis, et il y avait donc à Tremblay en France à côté de Villepinte. Et il y avait une consultation publique, c'est comme ça qu'ils appellent, ils vont voir les habitants et tout, voilà. Et donc il y a des gens qui sont allés perturber, donc ça s'est passé le 22 septembre, qui sont allés perturber cette réunion publique de consultation, voilà. Et il y a un petit texte qui a été lu, vous pouvez lire le compte-rendu de cette action sur Paris Lutte et sur Indie et Média, je crois. Mais donc on va vous lire le petit texte qui ont lu. Nous aussi, on va se présenter parce qu'on n'est pas juste un public comme vous dites. Quelques-uns et une à être venus aujourd'hui pour vous dire que votre projet nous dégoûte. On n'est pas venus pour participer à votre enquête publique qui, on le sait bien, finira par cautionner votre sale projet d'enfermement. En fait, ce projet, c'est juste une énième tôle pour enfermer toujours plus de gens en galère ou qui n'en peuvent plus de se faire exploiter, écraser, et ça nous dégoûte, que ce soit à Tremblay ou n'importe où ailleurs. Alors, on ne va pas vous faire des observations ou des propositions pour votre projet parce qu'on n'a pas l'intention de vivre dans un monde de tôle. On va seulement vous lire un petit texte qui détaille un peu plus ce que l'on pense. Voilà, et donc il y avait un tract qui est adjoint au truc, et donc vous pouvez retrouver le truc dessus. Voilà. Et juste pour dire qu'au moment où sont partis tout le monde, il y a eu un petit ballon gonflé à l'hélium avec attaché dessus une alarme, un incendie qui a passé un peu de temps en l'air. Voilà, et donc on espère que cette entre guillemets consultation a pu prendre fin. Voilà.
C'est clair. Donc moi je voudrais revenir sur la marche qu'il y a eu pour Idir la semaine dernière qui a commencé à la place du marché, qui s'est terminée à Corba, à la prison où Idir a perdu la vie dans des conditions très suspectes, où clairement on pense qu'il a été assassiné par les surveillants. Je vois pourquoi je mâcherais mes mots, ils mâchent pas leurs siens, ils mâchent pas les leurs. La marche est très très bien passée, il y a eu énormément de monde ça s'est passé dans la bonne humeur. La famille et l'association, est-ce que tu peux rappeler le nom de l'association? C'est Solidarité.
L'association Idir.
Et Solidarité, je crois.
Solidarité Idir, je
crois. Ouais. Il y a une deuxième marche dimanche 18 octobre. Ça commence à 14h à la place du marché des Minguettes. Bien évidemment,
On pense que la joie et la bonne humeur, c'est cool, mais arrive un moment, il faut bouger. Parce que malheureusement, ça se fait beaucoup entendre comme ça. Ça serait cool de faire un max de bruit. Donc, on demande à ce que vous sortez les béganes, les crosses, les motos, les quads, les voitures, que vous klaxonnez, que vous criez, que vous fassiez un maximum de bruit. À tous les quartiers, à toutes ces personnes qui cautionnent pas.
Et quand on dit on demande, c'est un appel qui tourne en ce moment pour
ouais, y oui, aller c'est manifester. Pas, c'est, oui, bien évidemment, c'est pas. Moi, je pourrais pas y être, ce serait culotté de ma part. Je suis à Paris, donc forcément. Mais voilà, pour sur ce track, c'est écrit. Je fais appel à tous les quartiers de Lyon, à la mémoire de Idir.
Et donc le nom de l'association, c'est Idir Espoir et Solidarité. Voilà. Vous pouvez les retrouver sur
c'est
les réseaux.
C'est pas eux qui font l'appel.
Voilà. Donc. Non. L'appel, c'est quelqu'un d'autre et tout ça. Mais en tout cas, la famille, c'est sous cette association-là qui font tout le truc. Et donc il y a aussi un compte rendu de la marche qui a été faite, qui a réuni quand même plus de 150 personnes, ce qui est quand même énorme. Assez énorme, qui a terminé devant Corba, donc devant la tôle. Voilà, c'est quand même très très rare. Voilà, la dernière fois à Fleury, il y avait quand même moins de personnes et tout.
Et moi, je voulais quand même rappeler que cette histoire, elle me rappelle fortement Jawad mort dans des conditions un peu similaires à Cesse. Et surtout, hormis la garde des Sceaux qui nous tape pas sur la gueule parce qu'on a fait sortir, parce qu'il y a un communiqué qu'on relayait. En ayant été espionné un petit peu les comptes des surveillants, leur page officielle de Bapaume, leur petit groupe de bouffons sur Facebook où ils arrivent à clasher les gens. Et à rire des douleurs des autres, là, pas un mot. Alors, est-ce qu'il y a eu un ordre en disant fermez vos gueules, il n'y a plus personne qui parle parce qu'il n'y a plus personne qui bouge, et c'est extrêmement étrange que hormis ce mec du syndicat qui expliquait sur les journaux effectivement, des débordements, il y en a dans les prisons, mais là, en l'occurrence, ça n'est pas un, ça fait mal au cœur d'entendre des choses comme ça. Et ben franchement, tu sais quoi, je te crois, mais c'est la dernière fois alors, hein, parce que là, vraiment, vraiment, il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis et des cons quand même, vraiment.
Bah, ça va être une longue lutte en tout cas pour que y ait enfin qu'on
que et je savais pas que parce qu'en plus t'es tellement con que tu dis qu'il a été retrouvé pendu le matin, t'es tellement con en vrai, tu vois, parce que j'ai envie de te parler qu'à toi en vrai, que tu dis qu'il a été retrouvé pendu le matin alors que l'autopsie dit que c'était une mort naturelle. Donc tu vois, faut vous mettre d'accord, arriver à un moment en vrai, faut arriver à vous mettre d'accord, voilà. Donc vous êtes con.
Ouais, malheureusement, c'est quand même pas ces incohérences-là qui vont permettre que la procédure elle aille forcément jusqu'au bout et que non, mais ça j'enlève rien ça. Ah. Mais du coup, je dis juste que du coup, c'est pour ça que c'est important d'aller dans ces manifestations, de maintenir la pression sur l'administration pénitentiaire. C'est le même ministère qui gère la justice, les prisons, les tribunaux, et en fait, les procédures sont quand même faites pour innocenter tous ces gens-là, ou en tout cas pour au minima les condamner à rien du tout. Même si nous, on souhaite de la prison à personne. Et du coup, on espère... Enfin, voilà, c'est aussi en mettant la pression qu'à la fin, on obtient le fait que l'État est condamné, qu'il y a vérité et avec qui on ne peut pas espérer justice, mais en tout cas, la vérité qui sort sur ces affaires-là, quoi.
Alors, en tout cas, je tenais à le signaler, je suis Idir. Voilà. Hashtag, je suis Idir.
Et donc, le rassemblement qui a lieu, tu peux redonner les...
Bien évidemment. Alors, c'est le dimanche 18 et c'est...
Donc, c'est dans deux jours.
Ouais, bravo, hein, tu sais compter. Alors, c'est dimanche 18 octobre à 14h à la place du marché des Miguettes. Et max de monde et de solidarité, bien évidemment, parce qu'il faut arrêter de penser que ça n'arrive qu'aux autres et que demain, ça peut être son frère, son père, sa sœur, sa mère. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut être un proche, un ami, un cousin, voilà. Et puis c'était surtout un gamin de 22 ans et qui était plein de vie et qui allait sortir dans les deux semaines qui suivaient. Et comment ces gens-là ils peuvent arracher et bousiller des familles pour leur propre amour propre, voilà, parce que il y a deux gamins qui parlaient de cellule en cellule et que c'est ils ont voilà, bande de flics ratés. Voilà, déjà que vous avez, bref, je
En tout cas, vraiment plein de force à eux et tout. On sait pas trop encore. Enfin, donc, on sait déjà que la semaine prochaine, ça sera une émission qui sera enregistrée. C'est plutôt pour une bonne cause parce qu'on va bosser sur un nouveau journal. Donc voilà, on l'avait dit déjà à l'antenne au début de l'année. N'hésitez pas à nous écrire maintenant pour nous donner des adresses et tout ça pour l'envoyer. Les autres gens qui veulent se réabonner, voilà, n'hésitez pas. Et aussi, n'hésitez pas.
Vous abonner, écrivez à l'envolée.net. Vous pouvez regarder sur l'envolée.net, bien évidemment, mais aussi écrire à 1 rue de la Solidarité.
Et on voulait tirer FPP.
Voilà.
Et donc, ça sera un enregistrement. La semaine d'après sera les poteaux du Sud, voilà, qui l'affront.
Donc on parlera de Michel dans 3 semaines.
Donc, ça sera sûrement dans voilà. Et puis bah on va voir un peu comment ça va se passer parce que nous ils nous foutent ce petit couvre-feu là. Mais voilà. Donc, on fera en sorte de continuer les directs et tout, et puis on se déguisera en livreur des livreaux, au pire pour rentrer chez nous, et voilà. Il faut donner un certain nombre
mais
de
non,
tactiques.
Non, Kirikou se déguisera.
Non, mais en vrai, en vrai, je pense que c'est vraiment le moment où les fours en écriture sont importants, et faut pas hésiter. Mais aussi, ouais, enfin, moi, je suis désolé, je donne mes techniques pour essayer de niquer le couvre-feu. Voilà, je trouve que c'est absolument n'importe quoi, et on a absolument le droit de donner ces techniques.
L'usage de faux, c'est pas mal aussi.
Mais non, mais tu fais des fausses attestations.
Tu prends une autre feuille, tu le colles comme ça, fait le tampon, il va aller sur votre feuille.
Mais ça, il n'y a pas besoin. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin que nous, on le relaye à l'antenne pour que les gens sachent qu'on peut faire des attestations. C'est nous qui les réécrivons, les attestations. On écrit ce qu'on veut dessus.
Mais non, parce que tu as besoin de ton attestation employeur aussi. C'est pour ça que je dis juste que c'est celle-là qui...
Tu prends la feuille du tampon.
C'est juste ça que je disais.
C'est ça que tu disais. Putain, les mêmes idées.
Donc, voilà, mais c'est juste, voilà, il faudra pas hésiter à... Voilà, parce que ça va durer longtemps, cette affaire, et qu'ils se foutent vraiment de notre gueule, quoi. Donc, voilà. On se passe au coucou.
Ouais, et juste avant de passer au coucou, on rappelle juste que demain, il y a 3 rendez-vous. C'est 4. C'est 10h, porte de Montreuil. 10h, porte de Choisy. 11h, porte de la Chapelle, ou 14h à République pour une manifestation, pour aller devant l'Elysée et exiger la fermeture de toutes les prisons pour sans-papiers et la régularisation de tout le monde. Et du coup, on voulait passer au Big Up. Moi, j'en profite juste pour passer un gros coucou au poteau à Fresnes. On pense fort à toi. On pense fort aux prisonniers là qui sont à Vincennes en ce moment. On espère que les keufs, ils n'ont pas été trop vénères derrière. Un gros Big Up à la copine qui a appelé la semaine dernière. On pense fort à toi. On continuera de donner des nouvelles dans les prochaines semaines. Voilà.
Dédicace à tous les prisonniers et prisonnières de France, du monde et d'ailleurs. Auréal, grosse pensée à toi. Martial, pareillement, et au poteau de Fresnes. Et puis, bien évidemment, à tous ceux qui souffrent à Bapaume, par exemple. Et voilà.
Et un gros big up à Fabrice aussi.
Ouais, salut à Serge. Désolé, je n'étais pas hyper, hyper réveillé quand tu m'as appelé samedi matin, mais ça m'a fait plaisir de t'entendre. Gros big up aussi à tous les gens qui ont moins de nouvelles depuis la fin du déconfinement et tout ça, mais qu'on a appelé à cette antenne pendant cette période. Et force, courage et détermination à tous les prisonniers et prisonnières de France. Voilà.
Rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission enregistrée. Force, courage et détermination. Et bien évidemment, rediffusion mercredi matin 9h30. Et il n'y a pas d'arrangement. Salut à tous et à toutes.
Hey, hey, hey. Il faut une crise identitaire. Il faut une crise identitaire. Hey. J'ai de la quantité, pas besoin de couper, je roule un petit air. C'est le Don Omar, t'es au chant guitare avec ton bling bling de chez l'antiquaire. C'est le dernier des vendus qui graille. C'est le premier qui donne un prix qui perd. Tu m'envoies 4 mensonges, parle de 4 moissons. Ça a préparé les pare-balles en 4 moussons. Calme mon sauce, t'es un gentil garçon. T'as pas idée de ce qu'on peut te faire dans un coin sombre. La petite graine, j'ai trop planté. Elles sont trop faciles à baiser quand t'as trop de plata. J'ai peur qu'un gosse de 10 piges vienne frapper à la porte et m'appelle papa. Hey, sale comme garde du Nord, l'amour a ses raisons que les réseaux ignorent. J'ai écrasé raisin de la colère. Et j'ai disparu comme Garcimore mort. J'ai pas le temps, l'avenir c'est maintenant. J'ai des caporales, des lieutenants. Quelques artistes en développement. Et des enveloppes de violets maintenant. J'suis dans le saloon avec Losa. Devant le Henout avec Moha. Madame rêve d'une autre Europe. Fils de pute de Macron rêve d'une autre Europe. J'prends le volant, j'ai bu toute la taille.
J'ai repris des mois sur ma peine. J'ai encore du sang sur ma perte. Nique sa mère.
J'compte les hasards avec Donaïma. Hey, remets de la meucre sur ma pizza. Hey, la qualité vendue à Prima. Yeah, lorsqu'ils voient la taille de la villa. Yeah, ils disent que je suis trop Giovanni. Pour tout ça, je suis trop Giovanni.
Je ne reviens jamais sur ce que je garantis. Tu parles trop, tu te crois dans un Tarantino. J'ai des pages vierges qui ne sont pas remplies. Si je t'attrape, tu verras pas tes parents de sido. Je suis connu de Marseille jusqu'à Drancy. On arrive en yo clip, pur part en vito. T'as percé, je vois ta tête qui s'agrandit. Ma définition de la vie n'est pas dans le gico. Je crois que je suis bon qu'à compter les sommes, à poser mes couilles sur le canapé. Plus rien me choque, j'ai vu s'embrasser des hommes. Ça veut plus rien dire d'être baraqué. Fils de pute, tu crois que je suis ton pote, mais je m'en bats les couilles de ce que t'as pensé. Je me rappelle de quand je nettoyais les chiottes, que mon patron qui fait trop me dévisager. M'en bats les couilles d'être sur le texte, les baisse fort, tellement fort qu'ils enseignent. Tu fais le duck, t'as un tatouage sur le bec, la rue c'est pas le tatoueur qui l'enseigne. Je crois bien que la street me respecte, par contre pour les meufs j'ai des doutes. Y'en a marre de parler des schnecks, y'en a marre de parler des schnecks.
Hey, remets de la meucre sur ma pizza. Hey, la qualité.